Vous écoutez
RMC. RMC, le bras de fer GG.
Novak Djokovic écrit une nouvelle page de l'histoire de ce sport. 7e victoire à Wimbledon en 8 finales. 21e titre du Grand Chelem.
C'est une légende, bien sûr.
C'est fini, Novak Djokovic. Il n'exulte même pas. Il défie du regard les spectateurs du Châtrier. Mais le 19e est là.
J'avais envie de connaître la légende.
C'est gagné pour Carlos Alcaraz à l'issue du final parfaitement maîtrisé.
Non, c'est pas terrible.
C'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe. L'impensable s'est produit à Melbourne.
La gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible.
C'est Novak Djokovic qui sort de ce tableau de l'US Open 2024. Il n'y a plus de patron dans ce tableau masculin.
Une antique légende.
C'est the last dance for me.
Une année blanche en 2024. Novak Djokovic a signé un improbable zéro pointé en grand chelem, une première pour lui depuis 7 ans, à bientôt 38 ans, avec un nouveau coach, Andy Murray. Le Serbe se lance dans l'ultime défi de sa carrière, remporter un 25e grand chelem. Djoko serait alors seul au monde, dépassant Margaret Court dans le livre des records. La quête du 25e grand chelem de Djoko. Faut-il encore y croire? Et c'est souvent comme ça que l'on voit si c'est un bon bras de fer. Parce que c'est extrêmement serré sur le compte X des grandes gueules du sport. Dans le coin gauche, la team non, il ne faut plus y croire. Fred Weiss, Denis Charvet, 49% pour vous. Dans le coin droit, la team oui, représentée par Marion Bartoli et Christophe Cessieux, 51% pour vous. La décision va se faire.
C'est une alliance contre nature, mais on va vous mettre une pile. Les deux là.
Il y a un truc qui va pas.
Pour une fois, ils sont d'accord et on est très heureux. Ça n'arrive pas souvent, ça va nous faire et me faire un petit peu de repos. 51-49. La décision, ce sera sur vos arguments.
Oui,
c'est là que ça va se jouer. On va retrouver, juste avant de vous entendre en direct de Melbourne, notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric.
Salut les amis.
Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle année, mon cher Eric. C'est vrai que Djoko a tout changé pour de nouveau gagner.
Oui, disons qu'il sentait le besoin de s'appuyer sur un coach de renom pour se donner un coup de boost. Il souhaitait un multiple vainqueur de Grand Chelem. Et il faut dire que le choix était assez restreint. D'où le coup de fil à Andy Murray, à la retraite depuis 6 mois. Et hier, en conférence de presse, le Serbe a justifié son cheminement.
Je crois qu'il a été quelque peu surpris par mon appel. Son QI tennis est incomparable, tout le monde s'accorde à le dire. On est encore en train de se découvrir. On a effectué une préparation d'une semaine en décembre et là, ça fait 4 jours qu'il est à Melbourne.
Quelle voix !
Il me donne de la motivation et m'inspire par sa présence sur le court. On communique beaucoup. Il essaie de me comprendre sur plein d'aspects et c'est pour cela qu'il échange avec les autres membres de ma team. Il est très méticuleux, très pro. Pour l'instant, j'apprécie vraiment cette collaboration.
Les deux hommes ne comptent pas leurs heures sur les cours de Melbourne Park et ça fait parler dans le vestiaire. Daniil Medvedev a trouvé une superbe formule qui ne mérite pas de traduction.
Imagine Messi would become the coach of Cristiano Ronaldo. Would be strange.
Bon, pas sûr que le Portugais et l'Argentin s'apprécient tant que cela, alors que les deux tennismen ont toujours éprouvé un grand respect l'un pour l'autre. Lucas Pouille, lui aussi, qu'on a rencontré ce matin, ne cache pas une certaine excitation.
Surpris, je me suis dit, putain, le mec, il veut pas rester à la maison, c'est quand même étonnant. Je me dis qu'à partir du moment où un joueur comme Novak te demande, bah, tu te dis que c'est quand même une expérience assez sympa. Je trouve ça marrant de voir comment un de ses plus grands adversaires va pouvoir être amené à l'aider et lui amener quelque chose en plus et le rebooster pour qu'il aille chercher un dernier grand chelem.
Si Novak Djokovic remporte son 25e chelem le 26 janvier, il aurait eu une inspiration de génie. Mais on va attendre de voir son niveau de jeu lundi matin en heure française face à une wildcard américaine. Et puis tomber à la 7e place mondiale, il aura un parcours semé d'embûches avec un possible quart de finale face à Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Évidemment, tu restes avec nous en direct de Melbourne pour ce débat. On va avoir besoin de toi parce que comme tu l'as compris, c'est extrêmement serré. La quête du 25e Grand Chelem. Faut-il encore y croire ? J'ai du non, j'ai du oui. Il y a 49% pour le non, 51% pour le oui. Messieurs du non, Denis Charvet, Fred Weiss, c'est vous qui commencez. Denis, pourquoi non ?
Écoute, alors l'argument de dire qu'il a un tableau difficile, je laisserai à Fred tout à l'heure, à mon camarade. Mais moi, je m'appuie plus sur le mental. sur le physique, pardon, excusez-moi. Ce mec a eu un mental extraordinaire. Je crois que c'est un des sportifs qui a le plus beau mental, le plus grand mental de toute l'histoire, de tout sport confondu. Moi, je me souviens d'une finale en 2019 à Wimbledon où il sauve deux balles de match contre Federer. Le grand Federer, et il gagne derrière, il a 45 pour Federer, et derrière il retourne, il fait 40 tas, il gagne Wimbledon. C'est un mec, ce jour-là, j'ai vu un extraterrestre, un alien. Vraiment, mentalement, je m'exprime.
Après, mais t'es en train de m'abandonner, Denis, ou quoi?
Pourquoi?
Parce que t'es en train de, justement de leur donner des arguments.
Non,
il faut savoir qu'il est engagé pour ça, Denis, hein, pour s'aborder ses petits copains.
Justement, maintenant je vais en venir au fait que le physique, le mental est lié au physique et que je pense que physiquement, il n'aura plus la capacité à tenir des grands chelems de 15 jours avec des rencontres en 5-7 sur une durée comme ça. Je pense que ça va être extrêmement dur d'enchaîner et que le mental ne suffira pas. C'est pour ça que j'expliquais que ça a été un mec extraordinaire au niveau de mental, mais qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est qu'il n'a pas gagné un grand chelem de l'année dernière. Il a fait une finale à Wimbledon, il a perdu. Et cette finale perdue à Wimbledon, eh bien, ça va lui enlever de la confiance aussi. Parce que s'il va en finale en Australie, eh bien, il sait qu'il peut encore perdre. Donc, je pense que Djoko, on n'a plus le même Djoko qu'avant. Et c'est en ça que je me dis qu'il va rester à 24 grands chelems, et puis tranquillement.
La première lame, ce sera Christophe Sessieux pour te répondre. Ouais, et ensuite, pour définitivement vous abattre, ce sera Marion Bartoli.
Moi, c'est une petite serpe. Derrière, t'as la guillotine. Ne l'oublie pas.
Grande tête, attention.
Christophe, pourquoi oui?
Vous êtes quand même des athlètes de haut niveau, vous avez été au sommet, ouais. Et je n'arrive pas à comprendre comment des gens comme vous, qui avaient touché du doigt ce qu'est le sport de haut niveau, ne pouvaient plus croire en ce garçon à Melbourne. Moi, je trouve ça dingue de ne pas imaginer le Joker, plus grand, l'un des plus grands sportifs de tous les temps, capable de remporter ce tournoi.
Tu pensais que Nadal allait finir comme ça aussi?
Mais qu'est-ce que tu comprends? Mais regarde, il est en état.
Il était
sur une jambe. Ça fait des années qu'il était sur une jambe. Et Federer, c'était la même chose.
Djoko, je suis pas sûr qu'il soit en état.
Djoko, je pense qu'il est en état. Autrement, Christophe, il serait pas aligné. Et puis, de toute façon, même quand il est pas en état, rappelle-toi les tournois qu'il a gagnés alors qu'il avait soi-disant
un truc en main. Ça veut dire longtemps.
En plus, il est chez lui. L'Australien est à Djoko, ce que Roland Garros était à Nadal, même si la surface de Melbourne est moins spécifique que la terre de Roland, mais il n'empêche, il est là-bas, chez lui, et je pense que 3 ans plus tard, il a encore une revanche à prendre sur les Australiens. Il a déjà pris en 2023 en étant autorisé à revenir en Australie et en gagnant. Mais là, je ne sais pas si vous avez lu les déclats qu'il a donné. Mais il a besoin de ça. Il a besoin de se fabriquer des ennemis, Djoko, pour pouvoir mieux les abattre. Et là, il a en ligne de mire tous les Australiens, tous les politiques et tous les juges australiens qui l'ont empêché, qui l'ont mis en prison, qui l'ont dégagé avec un coup de pied au cul en 2022. Et je pense que ça le motive plus que tout. Il a besoin de se trouver des
sujets. Ça motivation. Suffira pas. Ça, c'est des arguments qui tiennent pas la route.
Bien sûr.
Si le physique tient pas, c'est pas les arguments qui peuvent tenir.
C'est un tocard en plus.
C'est un tocard.
C'est un vieillard, il met plus un pied devant l'autre.
Je dis juste que ces leviers de motivation, on les connaît tous. Mais à un moment donné, ça a des limites, tout simplement.
Parce que. Non, mais à un moment, tu peux pas bouger un corps qui veut plus bouger, en fait. C'est trop facile de dire que la tête ne bouge plus, en fait.
Tu sais quoi, j'aimerais bien bouger comme lui.
Non mais évidemment, tu vois, on parlait justement de ce qu'il allait arriver à Djoko. Qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer contre Alcaraz normalement. Zverev, Sinner sur des matchs en 3-7 gagnants.
À la suite.
Eh les gars, à un moment, je veux bien rêver, c'est beau d'avoir un mental d'acier. À un moment, il joue contre des joueurs plus jeunes qui tapent dur, et est-ce qu'il a gagné quelque chose sur 3-7 l'année dernière? Son corps l'a rattrapé l'année dernière. Alors oui,
il a gagné les JO.
Parce que c'est en 2007 gagnant. Et parce que c'était son objectif absolu.
C'est des matchs tous les jours.
Et ben là, son objectif cette année, c'est de gagner. D'accord. À nouveau.
Ouais, mais je me fixe plein d'objectifs, moi, dans la vie. Hein. Mais malheureusement, je peux pas tout réaliser.
Ok. Mario Bartoli, pourquoi oui? Pourquoi t'y crois encore?
J'ai les oreilles qui sifflent depuis tout à l'heure.
J'attends
patiemment dans mon coin.
Vas-y, la guillotine.
Non, mais déjà, à chaque fois, nous dire. Ah, mais 2024, il avait une année blanche, il n'a pas gagné grand chose. On sait très bien que c'est l'année 2024. Il voulait absolument, gagner quelque chose. C'est les Olympiques. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. C'était sa dernière chance. Il a tout misé là-dessus. Je vous rappelle quand même qu'il s'est fait le ménisque à Roland-Garros, qu'il est arrivé à faire une finale de Wim sur une jambe. Et encore, quand je dis une jambe, pour pas dire une demi-jambe, il fait quand même finale de Wimbledon. Son objectif absolu, c'était les Jeux Olympiques. Après ça, qu'il y a eu un moment de décompression, il est allé à l'US Open, il voulait même pas y aller, mais comme c'était un grand chelem, il a décidé d'y aller. Son objectif pour 2025 n'ont plus rien à voir. Bien évidemment qu'il va se lancer à corps perdu aujourd'hui dans ses objectifs de remporter à nouveau des tournois du grand chelem. S'il a pris Andy Murray, c'est pas pour venir faire du tourisme à Melbourne, venir avec l'appareil photo et les claquettes et voir les autres jouer. C'est pour aller gagner. Je te rappelle quand même que sur dur, Novak Djokovic reste le joueur qui a le plus remporté toi du Grand Chelem sur dur, puisqu'il a 10 Open d'Australie et 4 US Open, oui, ce qui constitue un record. Qu'il a le plus de victoires dans tous les tournois du Grand Chelem confondus, qu'il a remporté plus de 90 matchs sur chaque tournoi du Grand Chelem.
Donc il est meilleur que Sinner sur 7 surfaces.
Il a remporté les 6 dernières Open d'Australie sur 9. Bah là, statistiquement, oui, tu veux pas me dire ça. Statistiquement, l'autre, il est au début de sa carrière, l'autre, il a 24 Grand Chelem. Bien évidemment qu'il est meilleur.
Bien évidemment qu'il est meilleur.
Ça n'a rien à voir.
Mais Mario, si on t'écoute, en fait, tu parles juste le palmarès et puis il va gagner les 4 grands chelems cette année.
Mais Alcaraz n'a jamais dépassé l'écart en Australie, déjà, pour commencer. Alcaraz, Open d'Australie, c'est pas sa surface. Zverev n'a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. C'est un immense souci pour lui. Psychologiquement, quand il arrive dans les derniers carrés ou voire en finale, à chaque fois, c'est extrêmement compliqué pour lui pour gérer ses émotions. Je peux vous assurer, si on est sur la road en demi-finale et c'est Djokovic-Zverev, c'est Djokovic qui va partir archi favori et tout le monde le sait. Zverev inclus. Et ensuite, sur une finale de Grand Chelem, quand tu as été autant maître de ce cours pendant des années, l'année dernière, la demi contre Sinner, faut quand même pas oublier qu'il a terminé avec la Coupe Davis les premières semaines de décembre, qu'il a fait aucune pré-saison et qu'il a enchaîné après une saison 2023 absolument gigantesque. Donc, il est arrivé à l'Open d'Australie, il n'a pas fait de pré-saison. Donc, bien sûr, sur quelqu'un qui est plus jeune et qui a lui aussi, bien évidemment, l'envie de prendre la place. Quand t'as un joueur qui n'a pas pu faire de pré-saison, qui n'a pas pu faire Roland Civis, qu'il est arrivé sur un fin de cycle. Mais tu peux pas déterminer la qualité d'un joueur sur un match, un demi-finale d'Open d'Australie, parce que Novak avait enchaîné une saison absolument exceptionnelle.
Et que parce que, avec son expérience, son mental et son tennis, il allait battre tout le monde. C'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc c'est pas parce que
Nadal avait des blessures qui ne pouvaient plus l'empêcher de performer. Djokovic n'a pas de blessure aujourd'hui.
Djokovic n'a aucune blessure aujourd'hui. J'ai une petite, messieurs, quand même, vous affirmez des choses, mais vous n'avez même pas regardé le tableau.
Si,
vous n'aviez même pas qui était en quart et en demi. Si tu comprends Sinner et Zverev, là, on est bien barré, quand même. On est bien barré, là, Mario. Avec ces deux-là.
C'est petit, on contre.
Mais il ne faut pas pas mettre deux. De toute façon,
mais c'est même pas une question de tableau. Je vais vous dire un truc.
Regardez le tableau une fois avant de partir en débat, quoi.
Moi, j'ai une question de tableau.
Non, mais Christophe, c'est même pas une question de tableau.
Rapidement.
Moi, j'ai une question pour Marion. Est-ce que sérieusement, tu le connais bien, t'es copain avec lui, t'es ami même avec lui, est-ce que tu penses sincèrement que physiquement, je parle sur l'aspect physique uniquement, il a encore les capacités d'enchaîner sur 15 jours, sur un grand chelem, avec des matchs en 5-7 pour aller jusqu'à la victoire?
Rapidement, Marion.
Alors, je vais te répondre très rapidement. Il a encore une année dans les jambes pour le faire. Pour moi, le grand chelem où il est le plus favori sur 2025, c'est Wimbledon, parce qu'il a une telle expérience sur gazon, qu'il a une telle maîtrise du jeu. Il l'a encore prouvé en 2024. Il atteint un final, je te dis, il était loin d'être à son meilleur niveau physique. Donc pour moi, Wimbledon, ça restera à sa plus grande chance d'aller gagner un tournoi du grand chelem. Pour moi, il a 2025 où il va encore tout donner. À partir de fin 2025, oui, bien sûr que les années vont le rattraper, que ça va être de plus en plus difficile. Mais vous m'avez cité Rafa et Roger. Rafa et Roger avaient des blessures pour l'un au genou et pour l'autre à la hanche, un petit peu partout, qui devenait un handicap beaucoup trop majeur, à la fois pour leur préparation et à la fois pour leur performance sur le terrain. Aujourd'hui, Novak Djokovic n'a aucune blessure, en tout cas aucune blessure.
Oui, mais dit dans le public, dit à la presse.
OK, je reprends la main parce que Eric Salio nous attend en direct toujours de Melbourne. Eric, moi je m'adresse toujours à madame Irma dans ces cas-là parce que l'année dernière, il nous a donné une leçon, Eric, qui adore Novak Djokovic, mais il nous avait dit en grand chelem, il va faire une année blanche. Il va peut-être gagner Roland-Garros, bravo, mais il fera une année blanche. Pas Roland-Garros, il va peut-être gagner les JO, hein, évidemment, à Roland. Mais sinon, il fera une année blanche. Alors, c'est quoi ton feeling? Parce que si je regarde les cotes, là, comme ça, c'est la première fois que je vois Novak Djokovic à 6,50 pour remporter l'Open d'Australie. 2,25 pour Yannick Sinner, 4,50 pour Carlos Alcaraz. Ça, c'est pour les bookmakers. Pour toi, mon cher Eric.
Non, mais je sais pas, l'an passé, j'avais ce pressentiment. Là, je l'ai pas, parce que je suis un peu d'accord avec Marion. Il va tout donner sur cette année 2025. Et moi, je pense qu'il va tout donner sur cette Open d'Australie. Ça vous a pas échappé. Il a stoppé sa saison très, très tôt, hein. On l'a pas vu à Bercy. Ouais. Il a pas fait le Master. Donc, il s'est requinqué. Il y a une fraîcheur mentale qui est là. Ça, c'est indiscutable. Murray lui fait beaucoup de bien, parce que là, je les vois parfois sur les cours d'entraînement. Là, ça bosse. Et Murray, bah, comme il le dit, il a un QI tennis extraordinaire et ça va lui servir forcément pour préparer les matchs. Donc, eh ben, je vais tenter un coup de poker. Je vois bien Novak Djokovic en finale de cette Open d'Australie.
Et pas le gagner.
Merci.
Parce que Sinner en face, c'est quand même du super costaud.
Ah, ben, on est d'accord. Merci, Eric.
On aura la réponse pour la suspension de Sinner en avril.
Mais il y a des dossiers qui risquent de. Il y a des dossiers qui vont sortir ces jours-ci sur Sinner. Donc, attention à la pression qu'il va avoir sur les épaules.
Lionel nous appelle au 32-16. Il veut participer à notre débat. Salut, Lionel.
Salut l'équipe.
Alors mon Lionel, dans quel camp tu te trouves? Parce que c'est extrêmement serré, c'est le camp du non, il ne faut plus y croire, Fred Weiss, Denis Charvet, ou oui, Christophe Cessieux, Marion Bartoli?
Non mais je ne comprends même pas ce débat, quoi. Comment vous pouvez douter de Djokovic? Le gars, lui seul, le gars il se présente, avant même d'avoir fait son match, il a un ascendant sur tout le monde. C'est-à-dire que quand il rentre sur le terrain, que ce soit même Sinner qui a une assurance hors norme, bah, il ne va pas arriver devant Medvedev comme devant Djokovic. Parce qu'il sait très bien que même.
Il a déjà battu Sinner, Djokovic. Il n'a pas peur de Djoko quand même, Sinner.
Laisse-moi terminer, Denis, parce que je suis totalement d'accord avec beaucoup de choses là-dessus. Sauf qu'en tennis, t'es trop hâtif. T'es trop. Ouais. C'est lui qui va gagner parce qu'il gagne trop. C'est pas comme ça, le tennis. Le tennis, tu peux mener pendant 2 heures. Va demander à Medvedev ce qu'il pense des finales, lui. Le pauvre, il avait vu plein de grands. Et tu peux, Djokovic, même si c'est un Nadal, sans blessure.
Et s'il n'a pas de pétrole dans le moteur, comment il fait? Explique-moi, à un moment donné, s'il n'y a plus de pétrole.
Tu veux que je te raconte des finales où... Alors après, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dans des sujets. Je ne veux pas me mettre Marion à dos parce que je suis complètement dans son camp. Va demander à Tsitsipas, le jour où il sort en finale de Roland-Garros.
De 7 à 0.
Il va pas finir le match. Il va abandonner parce que lui, il abandonne. Hein. Ce n'est pas Nadal qui s'arrache. Mais par contre, s'il voit un moment qu'il peut gagner... Mais il va jouer, même pas pour gagner, il va jouer pour mettre le doute.
Lunaise,
qu'on appelle le passé, ça, non?
C'était au passé, c'était hier, ça, c'est pas aujourd'hui, justement.
Eh ben, on verra.
Mais il y aura toujours en lui. Mais encore une fois, vous parlez comme si on avait d'un joueur qui était blessé. Novak Djokovic n'est pas blessé. Et n'oubliez pas quand même que Sinner, il a sa comparution qui arrive, il risque 1 ou 2 ans de suspension. Ça va quand même un tout petit peu lui trotter dans la tête. Alors, moi, je veux bien qu'il soit psychologiquement extrêmement fort et que rien ne peut l'atteindre, mais on verra pour arriver à gérer
le jeu. Allez, le résultat de ce magnifique bras de fer des GG autour de Novak Djokovic. Nous étions à 51% contre 49%. Nous terminons à 50,5% pour le oui.
On a gagné.
49,5% pour le non. Non, vous avez rattrapé un petit peu de votre retard, mais vous n'avez pas gagné, les copains.
Mais on a gagné. Factuellement, on a gagné.
Merci, Eric Salio, d'avoir été avec nous. Sachez que tous les jours, en podcast, vous retrouverez la carte postale d'Eric Salio en direct de Melbourne dans le podcast, l'excellent podcast Cours numéro 1 sur RMC. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve durant cette semaine.
Demain, on sera en direct pour le match de Lucas Pouille, peut-être.
À Melbourne.
Contre Zverev.
Eh ben c'est parfait.